auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui, lundi 9 juin, la 14e d'I Love Mes Cheveux. Une émission diffusée normalement deux ou trois lundis par mois, de 9h30 à 11h, en direct ou pas. Et évidemment en podcast, toujours. Alors je dis diffusée normalement deux ou trois lundis par mois, parce qu'au mois de juin 2025, on va faire un grand chelem avec 5 émissions en 5 semaines. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct. Donc j'ai dit qu'on était le lundi 9 juin, mais je mens pour mon invité et moi, puisqu'on enregistre ça quelques jours à l'avance. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction, au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal et à mes côtés aujourd'hui, Alexander Dico. Alexander, bonjour.
Bonjour.
Alors pour tout dire, Alexander et moi, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années via les réseaux sociaux, mais nous nous rencontrons pour la première fois en chair et en os aujourd'hui. Donc on est super contents, enfin moi je suis super content, je ne me permettrai pas de parler pour mon invité.
Moi aussi quand même.
Si, c'est vrai, bon allez ok, c'est gentil. Et voilà, donc on va vous dire un petit peu qui est Alexander dans les minutes qui viennent. On va expliquer en quelles circonstances on s'est connus sur les réseaux sociaux. Mais je clôt cette intro en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié, ILMC 2025, qu'on peut ou qu'on doit s'y abonner pour ne rien manquer des annonces, des podcasts, qu'on peut même commenter parfois les publications. Alors vous pouvez poser vos questions ou mettre vos remarques, mais comme ce n'est pas en direct, évidemment, on ne va pas pouvoir, comme on le fait parfois, répondre un petit peu à vos questions. Bon, on va se débrouiller. Bien, je crois j'ai des petits problèmes de réglage de son. J'ai beau appuyer sur les manettes, c'est pas absolument parfait, mais on va se débrouiller, je crois, quand même. Voilà, donc on est avec mon invité Alexander, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. J'expliquerai un petit peu dans quelles circonstances il est parmi nous. C'est parce que normalement, il habite aux États-Unis, donc il n'est pas en France si souvent que ça. Donc on va voir un petit peu dans quel contexte on s'est connus et dans quel contexte il est actuellement en Touraine et même plus précisément en Anjou. Mais avant, on commence par la rubrique habituelle du mot du jour, que je vais faire la plus brève possible. Le mot du jour, c'est le nom d'une langue, Gekoyo. Et le Gekoyo, c'est une des langues du Kenya. Et je vais parler uniquement du nom de cette langue, qui est une langue que je ne parle pas, comme toujours, qui est notamment connue pour être l'une des deux langues d'écriture du grand écrivain Gogo Atiang, qui est mort le 28 mai dernier. Alors, à l'occasion de sa mort, beaucoup d'articles ont parlé du Kikuyu avec un K, K-I-K-U-Y-U, qui est le nom colonial, en fait, anglicisé de cette langue. Donc, de même que de nos jours, beaucoup de gens savent qu'il ne faut plus dire Eskimo, qui est le nom colonial, mais qu'il faut dire Inuit, eh bien, c'est pareil. Ça n'est pas très difficile de se faire l'effort de nommer la langue selon le vœu et la pratique des gens qui la parlent, et donc de d'écrire avec un G et pas avec un K. Alors après, idéalement, il faut mettre des tildes sur les I et les U, ça devient plus compliqué évidemment, selon les claviers. Et puis de dire Gekoyo et pas Kikuyu, voilà. Donc c'était juste puis c'était évidemment l'occasion pour moi de faire un petit salut in memoriam au grand écrivain kényan qui vient de nous quitter. Donc le mot du jour, vous l'avez vu, c'était un nom de langue, le Gekoyo. Alors, nous en venons à l'invité, Alexander. Donc Alexander Dico, poète, alors tu es professeur à l'université, aussi à Virginia Tech, mais tu es donc spécialiste notamment de poésie et de littérature française. Tu es poète, romancier, traducteur, et tu as la particularité d'écrire en français et en anglais. Ça veut dire que, par exemple, en ce moment, je crois que tu écris un roman en français et que ta publication la plus récente est un poème dont on aura l'occasion de parler, que tu as écrit en anglais. Alors, quelles sont les circonstances qui font que tu es dans la région ?
Alors, je suis en résidence à la maison Julien Gracq, qui est la maison donc de l'écrivain Julien Gracq, qui a été légué par l'écrivain en vue de faire une maison pour une résidence d'auteur. Et qui existe depuis 2011, j'ai envie de dire. Je ne sais plus exactement la date à laquelle ils ont commencé à recevoir les résidents. Donc on fait des actions de médiation, on fait des rencontres en librairie, des choses comme ça. Et donc j'ai l'occasion de rester là et d'écrire, de travailler ce roman en français, effectivement, pendant 2 mois, avec différentes interventions à la radio, la radio G de Angers. Effectivement, où j'ai fait une intervention et d'autres choses de ce type.
On salue nos collègues de cette radio que j'avoue ne pas connaître, mais je ne suis pas un grand spécialiste des radios, en dépit de mes nouvelles fonctions d'animateur. Dans le cadre de cette résidence, tu le dis, c'est une résidence d'écriture. Ça veut dire qu'en premier lieu, c'est censé te laisser du temps, te permettre de dégager du temps. Loin de ta patrie d'origine et loin aussi de tes activités professionnelles habituelles pour de l'écriture. Et donc le roman avance bien.
Le roman avance bien, j'ai doublé la taille du manuscrit, c'est pas dire grand chose dans la mesure où quand je suis arrivé, j'avais 23 pages en interligne simple. Maintenant j'en ai 53, 54, quelque chose de cet ordre-là. Mais tout progrès est un progrès. Hein.
On peut déjà dire que ça n'est plus une nouvelle déjà, c'est vraiment un roman.
Exactement.
On est vraiment sur les... Ok, très bien. Alors je posais la question parce que ça peut paraître un peu délicat de poser cette question-là, parce que si tu m'avais répondu non, ça avance pas du tout, alors je savais que tu m'avais dit que ça avançait pas trop mal quand même, donc c'était vraiment pour les auditeurs que je posais cette question. Donc la résidence d'écriture, elle sert à ça, et puis elle sert aussi, comme tu l'as dit, aussi à faire des activités de médiation. J'aurai l'occasion de le rappeler, mais des fois que j'oublie, je me permets de le redire, l'actualité la plus immédiate pour toi, puisque cette émission que nous enregistrons là en ce moment sera diffusée le 9 juin, c'est le 11 juin à 18h30, si vous habitez du côté d'Angers ou pas loin, tu fais une rencontre à la bibliothèque anglophone d'Angers, c'est ça ?
C'est bien ça, oui, tout à fait.
Et donc là, ça sera en anglais du coup ?
Ça sera en anglais.
Autour de ton œuvre en anglais du coup ?
Oui, tout à fait. J'ai quand même un petit bout de traduction du premier souper, qui est un roman en français. Donc un petit bout que j'ai traduit à une autre occasion et que j'utilise pour cette rencontre aussi.
Ok, alors le premier souper, qui est un roman que tu as publié aux éditions La Volte en 2021
ou
2021. D'accord, et donc tu as commencé à t'auto-traduire. Mais tu as commencé à te traduire uniquement parce que tu savais que tu aurais cette intervention-là, ou c'est parce que tu avais commencé un petit peu ça par ailleurs ?
J'avais commencé un peu ça par ailleurs, effectivement.
D'accord, ok. Ok, mais écoute, super. Donc ça, c'est le 11 juin, donc après-demain, pour les gens qui nous écoutent en direct, enfin, qui nous écoutent au moment de la diffusion. Et j'ai du mal avec ça, moi. J'ai du mal avec les films de Christopher Nolan. Là, vous imaginez pas enregistrer une émission quelques jours avant pour parler comme si on était dans le futur. Moi, ça me déstabilise beaucoup. Alors toi, tu travailles beaucoup hein, aussi dans les littératures dites de l'imaginaire, donc tu es sans doute moins déstabilisé que moi, mais moi, ça me déstabilise. Là. Je suis trop cartésien. Et donc le 12 juin, donc toujours cette semaine, donc jeudi qui vient, à 19h à la bibliothèque de la maison Julien Gracq, il y a une carte blanche avec Philippe Forest aussi, si tu veux nous en dire un mot, dire un petit peu ce qui va se passer ce jour-là.
Alors on va avoir une conversation, on va discuter. Alors Philippe était un professeur que j'ai eu quand j'ai fait mon DEA à Nantes en 2003-2004, et donc qui a fait un cours sur l'histoire du cinéma de Godard qui était tout à fait mémorable. Ça se dit en français, mémorable.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui.
Très bien. On va parler surtout de ses romans. On va pas parler de Godard, bien sûr. Enfin, peut-être un petit peu, mais ça sera concentré sur son travail de romancier, ainsi que mon travail. On fera un dialogue autour de nos deux œuvres, qui devrait être très sympathique, je pense.
D'accord, très bien. Donc rendez-vous est pris. Alors même si là c'est Radio Campus Tours et qu'on ne sait pas très très bien, les personnes qui nous écoutent et qui sont de la métropole tourangelle ne vont peut-être pas aller prendre la voiture ou le train pour aller jusqu'à Angers mercredi ou à la maison Julien Gracq, qui est encore un petit peu plus loin. Alors il faut le dire, c'est à Saint-Florent-le-Vieil, mais c'est la commune de Mauges. Donc c'est entre Angers et Nantes, c'est à mi-chemin entre Angers et Nantes, un petit peu plus près d'Angers peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est pas la porte à côté exactement pour les Tourangeaux, mais voilà, en tout cas, c'est important de le dire. Et puis après tout, c'est la magie de la radio. Si ça se trouve, on nous écoute au moment de la diffusion au Zimbabwe ou en Finlande, donc peut-être aussi aller savoir à Angers. Donc on voit quand même qu'on on ne te tient pas totalement oisif ou occupé à ton manuscrit. Tu es également sollicité pour des rencontres. Ça, jusqu'à présent, il y en a eu une qui était un petit peu inaugurale, je crois, il y a une quinzaine de jours, c'est ça ?
Tout à fait, c'était avec Tiphaine Le Gall, hein, qui est l'une des autres résidentes. On est trois, c'est Mathilde Gall, Tiphaine Le Gall, donc c'est un pur hasard que deux Gall dans les noms, et puis moi, donc qui sont à la maison Julien Gracq. Mathilde reste jusqu'à fin juillet, je crois.
D'accord, ok, très bien. Et donc ça t'a permis, alors t'as eu surtout un public de personnes qui découvraient ton œuvre, ou il y a eu quelques personnes qui avaient lu, parce que je pense que l'annonce, enfin moi j'ai vu passer l'annonce sur les réseaux sociaux quelques mois, je crois, avant le début effectif de la résidence, t'as rencontré des gens qui ont découvert ton œuvre à cette occasion-là, qui avaient commencé à te lire, ou t'as eu plutôt eu l'impression de faire découvrir ton œuvre à des gens qui la connaissaient pas du tout à cette occasion
Alors, la modératrice connaissait bien nos deux œuvres.
D'accord, ok.
Et les autres, je pense, découvraient, effectivement. Mm-hmm. Alors, il y avait des membres de l'association qui travaillent autour de la maison Julien Gracq. Il y avait aussi juste des gens qui viennent souvent à ces interventions à la maison. Donc, c'était assez divers, mais je pense que pour la plupart, on découvrait. Et moi, ça me convient très bien. En fait, j'aime bien faire découvrir.
Mmh, tout à fait, hein, tout à fait, absolument. Je peux comprendre ça totalement. Alors, il se trouve que j'ai malheureusement pas eu beaucoup le temps de préparer l'émission à fond, parce que peut-être parce que je me dis aussi qu'une des raisons pour lesquelles j'étais content de t'inviter, c'est que je connais déjà ton œuvre, donc j'ai peut-être moins besoin de la retravailler dans les détails, mais je me suis replongé évidemment dans un certain nombre de tes livres qui sont là devant nous, hein, entre nous, je fais l'audio description pour les auditeurs, je me suis aussi replongé un peu dans nos échanges. Alors on a commencé à échanger via les réseaux sociaux, via Facebook, je crois qu'on peut le dire, hein, le réseau social des vieux comme nous, il y a quelques années, je dirais 2017-2018, quelque chose comme ça, parce que j'avais découvert une maison d'édition qui te publiait, et en découvrant cette maison qui est la maison Louise Bottu, on salue d'ailleurs Jean-Michel Martinez et Snaola, l'éditeur qui a publié deux livres de toi, si je ne m'abuse, hein, Rhapsodie curieuse et Desblais.
C'est ça.
Et donc voilà, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à échanger, à sympathiser et tout ça. Et donc je me suis aussi replongé dans nos échanges privés et j'ai vu que quand j'ai lu Le Premier Souper en 2021, je t'avais écrit en disant que je le lisais par fragments et qu'il y avait des éléments dans l'écriture, alors que pourtant c'est une œuvre, je ne sais pas comment tu la décrirais d'ailleurs, interromps-moi pour dire Le Premier Souper en deux phrases, trois phrases, c'est compliqué quand même.
C'est une sorte de fix-up. C'est-à-dire il y a trois récits différents qui sont articulés autour d'un thème commun qui est la nourriture, mm-hmm. hein, le fait de se nourrir, et donc qui implique un rapport au monde désirant, mm-hmm. hein, de dévorer le monde en quelque mm-hmm. sorte, ou d'être dévoré par le monde, donc qui parcourt les trois récits.
Avec toute une partie, quand même, on peut le dire, anticipation ou fantasy, et tout notamment tout un peuple qui se nourrit de pierre. Mm-hmm. notamment, voilà, c'est pour dire, voilà, donc ça peut parler, je pense, un petit peu plus aux gens. Et donc en te lisant, je suis retombé sur ce mail que j'avais oublié, j'avoue, et dans lequel je te disais que j'avais trouvé qu'il y avait dans un certain nombre de chapitres une écriture qui me faisait penser un petit peu à l'écriture du paysage, à l'écriture de la nature et du rapport des hommes à la nature de Julien Gracq. Et alors c'est amusant parce que je pense que je pense pas que ce soit l'analogie qui saute le plus aux yeux quand on lit Le Premier Souper, mais c'était It Had Grown on Me, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, à force de lire le livre, je me dis, mais quand même, il y a quelque chose là qui me fait penser à certains textes de Gracq. Et maintenant, te voilà invité à la maison Julien Gracq. Donc c'est un écrivain dont tu peux te réclamer assez facilement ou pas trop ?
Assez facilement, effectivement. Bon, j'ai pas mal lu Gracq. Le Rivage des Sirtes et Le Balcon en forêt, mm-hmm. c'est les deux livres les plus importants pour moi de Gracq, mais j'ai lu aussi des choses, des carnets un peu tardifs, mm-hmm. ce genre de choses. Donc c'est un écrivain qui a été important pour moi, qui le reste, mm-hmm. Et effectivement pour cette espèce de style, il y a une sorte de profusion, de prolifération justement un mm-hmm. peu baroque, un peu luxurieux en quelque sorte, je sais pas comment dire, de ce style qui m'attire et qui ressemble au mien dans une certaine mesure, je pense.
Et qui effectivement, alors tu dis baroque et en même temps il y a une recherche de la précision lexicale, c'est-à-dire le choix des mots fait l'objet, enfin, est l'objet de toute évidence d'un désir de la langue, c'est-à-dire d'un plaisir aussi de la langue, mais aussi, quand même, aussi d'une vraie précision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gratuité. Et je pense que c'est aussi un autre point commun, c'est-à-dire, entre vos écritures, c'est-à-dire que parce que bon, on peut le dire rapidement, même si ce n'est pas la raison pour laquelle tu es invité aujourd'hui. Tu es spécialiste des littératures de langue française de la fin du 19e et de la première moitié du 20e, on peut dire, et notamment de la Première Guerre mondiale. Mmh. Spécialiste de Max Jacob, entre autres. Mais tu as beaucoup lu, je pense, tous les impressionnistes, les poètes symbolistes, décadents, etc., chez lesquels, parfois, la recherche du mot, elle est un peu gratuite, quand même. Et on sent que chez toi, c'est pas ça, et chez Gracq non plus. C'est-à-dire, le mot rare cherche à dire une réalité rare ou une réalité autre, en fait.
Tout à fait.
D'accord. Ok, très bien. Ben écoute, c'est chouette que tu sois là, que tu sois en France pour ces deux mois et pour cette résidence. On souhaite bonne chance, bon vent à l'écriture du roman qu'on aura plaisir à lire dans pas trop longtemps, j'espère. Dans cette émission, on parle beaucoup de plurilinguisme, de traduction. Alors ton profil est un profil un peu atypique, on va dire ça, et en tout cas tu es le premier à venir dans cette émission avec ce profil-là, c'est-à-dire que tu es de langue maternelle anglaise ou américaine, si on veut, et tout à l'heure tu m'as demandé, si à l'antenne du coup, ce qu'on disait mémorable, tu t'es trahi, mais c'est le seul moment où tu te serais trahi en fait, hein. Tu t'es trahi comme quelqu'un comme moi, dont c'est la langue maternelle, pourrait soudainement se dire, ah mais ce mot, c'est ce que ça se dit en français, parce que bon, sinon on se rend pas du tout compte que tu n'es pas francophone. À quel moment le français est entré dans ta vie et à quel moment tu t'es mis à écrire en français? Pourquoi écrire en deux langues différentes? Enfin, c'est une vaste question, mais c'est pour lancer un peu la discussion autour de ton œuvre aussi.
Alors, comment le français est entré dans ma vie? Ma mère avait ou a une amie de longue date qu'elle connaît depuis 50 ou 60 ans maintenant, enfin très très longtemps. Elle l'a connue quand elle avait 20 ans environ. Qui est venu avec sa famille chez moi au Kentucky avant que je déménage dans l'Idaho. J'ai vécu 4 ans au Kentucky. Et ils sont venus nous rendre visite. Et elle avait une fille de mon âge, donc qui était la première personne du sexe opposé qui parlait une autre langue que j'avais rencontrée de ma vie. J'avais 3 ou 4 ans. Mmh. Et donc, ça, c'est la première rencontre avec le français. C'était avec la famille de Brigitte et Julia, qui est à mon âge, et qui est restée une amie. Donc, Brigitte, c'est quelqu'un de très important dans ma vie aussi, depuis toujours. Mon père avait une année sabbatique en 90, vers là. Et j'avais 12 ans et je suis allé au lycée international à Saint-Germain-en-Laye où j'ai fait mon année de 6e de français spécial, comme on disait, donc FLE, au lycée international. Et on a vécu à Médan, des fameuses soirées de Médan de Zola et compagnie. Et donc la résidence de Zola y est toujours, on peut visiter. On n'a jamais visité le musée de la maison de Zola, en fait.
D'accord. Donc en fait, à la fin du siècle dernier, tu es tombé dans l'autre fin de siècle, en fait. Tu n'en es jamais trop ressorti, en fait, on peut dire un petit peu, mais tu n'as jamais non plus complètement quitté la France. Ok, d'accord. Et donc, pour que ça soit bien clair, ça veut dire que quand tu es arrivé dans cette sixième, tu ne parlais pas français. Tu es arrivé en France en ne parlant pas français, ou très peu, des rudiments peut-être, je ne sais pas. Mais
3-4 mots. Ouais. Bonjour.
Et dans tes souvenirs, vous n'êtes resté qu'un an. Après, toute ta famille s'est réinstallée aux États-Unis. Mm-hmm. Et quand tu as quitté la France au bout d'un an, tu parlais avec des Français non anglophones en réussissant à avoir une conversation, ou c'était...
Oui, tout à fait. Le français était assez bien acquis à l'oral. D'accord. Mais je lisais mal le français à cette époque-là. J'ai dû m'apprendre à lire le français un peu plus tard, vers les 16 ou 17 ans, en achetant un tas de romans. Alors l'un des premiers que j'avais lu, c'était Zazie dans le métro de Queneau.
D'accord. C'est peut-être pas le meilleur choix pour c'est pas un français extrêmement conventionnel, on va dire. C'est pas un français standard.
tout à fait. C'est... Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris quand j'ai lu ce roman.
Ouais. Mais ok, d'accord, très bien. Et après, tu es revenu après pour des séjours comme étudiant, je crois, c'est ça, comme pendant tes études, c'est ça tu...
Tout à fait, oui. J'ai rencontré ma première femme à Rennes en 2000-2001. Donc je suis venu faire des études à Rennes à ce moment-là. Ensuite, je suis revenu faire une année de TAPIF d'assistanat en école primaire, à enseigner l'anglais en école primaire, d'accord, à Rennes vers 2002-2003. Et puis je suis allé à Nantes faire mon DEA en 2003-2004. Donc il y a eu sept années en tout à différents moments de ma vie que j'ai passé en France.
Pleinement en France. D'accord, d'accord. Ok, et donc c'est à cette occasion aussi, en fait, tu as commencé, enfin, le DEA, puis la thèse, c'était en littérature française, et ça s'est fait en grande partie en France, en fait, du coup. En partie en France, en tout cas.
En partie en France, oui. Alors j'ai fait mes études de français en commençant au lycée. C'était très facile, mais bon, je me débrouillais déjà bien, donc c'était assez peu compliqué de faire ça au lycée. Et puis à la fac, je me souviens, mon premier cours de littérature, on devait lire Madame Bovary et du côté de chez Swann, et j'étais un peu nerveux, je me disais, est-ce que je vais pouvoir me débrouiller
mmh. Oui, je peux comprendre, oui, tout à fait. Alors, on en vient à l'écriture, donc tu écris en anglais et en français, et j'ai envie de dire, c'est un peu impensif, mais que... De toute façon, la langue littéraire est une langue étrangère, et que, en un sens, quand on te lit, tu écris un anglais d'une part et un français d'autre part, qui sont aussi des outils d'expérimentation. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel est ton intérêt vis-à-vis du fait, ou quelle différence tu fais peut-être entre quand tu écris en anglais, quand tu écris en français, ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est avant tout écrire, hein? Est-ce que...
Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien cerné la question, mais je sais que, enfin, déjà il y a la question de la différence, c'est-à-dire est-ce que j'aborde l'écriture en anglais de manière différente que le français. Maintenant, je crois pas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a très peu de différences, mais il y a tout de même des différences qui s'imposent. Par exemple, le récit, quand je fais de la prose narrative, appelle le français. Donc le roman sur lequel je travaille actuellement est en français, Le Premier Souper est en français, donc il y a certains livres qui s'imposent comme ça en français.
Et tu n'as jamais écrit de roman, enfin en tout cas tu n'as jamais publié de roman en anglais.
Effectivement.
D'accord, ok. Alors ça aussi c'est un petit peu à contre-courant, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent dans plusieurs langues et qui écrivent dans des formes brèves, dans les langues qui sont les, a priori, au moins en théorie, les plus éloignées de leurs origines, l'enfance, la langue maternelle, etc. Donc toi, c'est pas le cas. Et donc, tu as une explication pour ça ou t'as pas d'explication pour ça, peut-être, je sais pas.
J'y ai pensé pas mal. Je pense que c'est en partie parce que quand j'ai abandonné la prose narrative, je devais avoir dans les 15 ans. Et je me suis tourné vers la poésie, qui me convenait mieux, etc. Je n'écrivais que en anglais à ce moment-là. Et quand je suis revenu au récit, j'étais déjà dans un rapport d'aliénation par rapport à l'anglais, à la prose narrative en anglais, un peu bloqué par rapport à la prose narrative en anglais. Et donc, c'était plus facile d'aller vers le français, de faire un récit en français. Et je pense aussi que j'ai peut-être plus de références littéraires, de lecture de romans
du fait de ton métier finalement t'as plus lu en français qu'en anglais, plus de modèles en quelque sorte, je sais pas si c'est le mot, c'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je le comprends un petit peu comme le fait que il y a une forme de libération d'écrire en français de la prose narrative, parce qu'il y a un côté jeu ou mise en scène, c'est-à-dire tu commences à écrire dans une langue qui est de toute façon une langue peut-être plus, comment dire, je ne dis pas artificielle, mais littéraire, ou je ne sais pas, enfin, il y a ce côté-là, d'accord, ok.
Oui, oui, en quelque sorte, ça me permet d'objectiver le travail d'une plus facilement.
D'être moins dans la langue du quotidien aussi, peut-être.
Oui.
Puisque tu vis aux États-Unis, du coup, ta langue du quotidien est redevenue quand même principalement l'anglais, je suppose.
Tout à fait.
D'accord, ok. Ça, Make sense, comme on dit. Alors, avant une première pause musicale, je voulais juste dire que, en particulier sur ta poésie, alors il y avait un premier recueil qui s'appelle Carambole, que tu as publié en 2008. Est-ce que tu peux juste, avant justement cette première pause musicale, nous dire quel était qu'est-ce que tu avais essayé de faire dans Carambole ?
Alors, dans Carambole, le dispositif, c'est de présenter des textes en regard, un texte en français, un texte en anglais, mais pas toujours dans le même ordre, de sorte qu'on n'arrive pas à repérer dans ce livre quelle est la traduction et quel est le texte original. Et donc ça fait partie du dispositif. L'autre partie du dispositif, de la démarche, c'est de jouer avec le solécisme, la faute de langage, de sorte à donner des rythmes un peu décalés, des carambolages linguistiques, et qui peuvent parfois apparaître comme des sortes de maladresses et qui finissent par avoir une sorte de charme à force de lire. Donc ça, c'était l'idée derrière Carambole. Et c'est une veine que j'ai continué de creuser ici et là dans l'œuvre. Donc y compris le premier souper a des passages avec un français un peu décalé.
Alors, dans le tout dernier, ton dernier livre publié, c'est The Distance and You in It, qui est un livre dont on reparlera, mais je voulais juste lire un extrait de la page 110. Alors, c'est moi qui vais le lire, du coup, comme je te prends de cours. N'hésite pas à le relire mieux que moi après, faut pas hésiter. Mais parce qu'en fait, il y a un personnage, on en reparlera après, mais il y a un personnage qui soudainement se voit dépouillé de quelque chose et soudainement sa langue en fait devient une langue dans laquelle il y a des solécismes et les auditeurs qui connaissent l'anglais vont entendre ce qui va pas, même si d'ailleurs votre niveau d'anglais est pas excellent, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas. It's time to all of me retreat, by save my skin behind of walls. And rather than admit defeat, it's time to all of me retreat. Though I will soon enough repeat, bedeviling your coups and calls, it's time to all of me retreat, by save my skin behind of walls. Donc bon, je ne fais pas un cours d'anglais, mais enfin, il y a au moins deux tournures ici qui ne sont pas des tournures syntaxiques qu'on accepterait dans une copie d'étudiant, et qui donc sont, donc tu as, et donc ça veut dire que c'est ponctuel, tu continues à faire ce type de carambolage dans lequel finalement tu t'amuses à imaginer des états autres de la langue aussi, c'est-à-dire c'est ça l'idée ou
Oui, tout à fait, des états autres de la langue, de rendre la langue autre, défamiliariser la langue, comme on a pu dire, aux étrangers. Il y a toutes sortes de traductions de ce terme russe qui est devenu défamiliarisation en français. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que je continue de faire. J'allais proposer de lire un poème d'un recueil de 2022 qui s'appelle « Appétit ». Et qui est une version française d'un livre qui est déjà paru en anglais en 2018, Appetites. Il faut que je trouve le texte déjà. Alors, ça s'appelle Règlement. Évitez à marcher la pelouse, restant avant les pointillés. Gardez contre vous-même votre billet pour chaque moment. Ne lâchez pas avec les ordures. Ne touchez ni autrement déranger les installations. Et il n'y a ni nourriture, ni de bousculer avec les animaux. Pendant que vous trouviez votre siège, demeurez respectueusement contre votre voisin en parlant. Saluez seulement une tonalité lisse avec les gens. Échouez les malédictions et pour crier, ni ne culbuter sur eux-mêmes ou à perturber vers leurs assoupis bébés. Parlez toujours merci et s'il vous plaît. Attendez pour votre tour. Tandis que le spectacle termina, cheminez-vous-en dans une bien ordonnée manière parmi la sortie de votre gauche.
Et c'est effectivement traduit. Alors, tu as dit version française. D'ailleurs, tu ne dis pas traduction, tu ne dis pas auto-traduction. On aura peut-être l'occasion de discuter de ce terme après la pause musicale. Je voulais juste citer pour dire qu'il y a vraiment ce dispositif qui revient dans d'autres poèmes d'appétit. Il y a recette de dessert dans lequel on trouve le vers et demi suivant, saupoudré du hasard avec les enrobages généreux, qui est dans la version anglaise donnée Sprinkled Chance by Generous Coating, dans lequel finalement tu réassembles des éléments un peu de la langue standardisée, des recettes, des livres de recettes, en déplaçant des éléments ou en changeant juste une fonction de nom ou d'adjectif, tu recrées un sens complètement autre en fait. Et donc là on voit que tu as été influencé par Mallarmé, et peut-être par Queneau aussi, dans celui que tu viens de lire, je trouve qu'il y avait un côté un peu Queneau aussi, même si c'est une version française qui vient après une version anglaise. Je te laisse réfléchir à la question du vers, mais bon, je pense que tu as déjà la réponse et que tu as déjà peut-être même répondu. Je n'ai pas écouté tous tes entretiens ou toutes tes interviews, mais cette question, est-ce que tu dirais réécriture, version française, deuxième version, version parallèle, auto-traduction, qu'est-ce que tu assumes ou pas là-dedans? Mais on va faire une première pause musicale et ça c'est... On écoutera ton choix musical tout à l'heure, là c'est le mien. C'est une chanson du groupe Catonoma qui date de 1995. Ça s'appelle John and Mary et l'auteur du texte, alors les chanteurs sont Rodolphe Burger et j'oublie toujours le nom, Rebecca Pauly, je crois la chanteuse, oui, Rebecca Pauly. Et l'auteur du texte n'est autre que Olivier Cadio, un poète et écrivain contemporain. Et je vous laisse découvrir pourquoi, après avoir parlé de ces carambolages qui font subir des choses étranges aux Français et à l'anglais, je choisis cette chanson.
John Mary et Mary fait parler. Personne, personne n'a vu rien du tout.
Anyone.
Anyone. John l'a tué et Mary fait pareil. Personne, personne n'a vu rien du tout. Anyone?
No one.
Studio de Radio Campus avec Alexandre Dico, notre invité du jour. C'était John and Mary de Catonoma sur les paroles d'Olivier Cadio. Et on entendait aussi au cuivre les regrettés Philippe Poirier et Guy Biquel, sax et trompette. Je l'ai fait dans le bon ordre, oui, je l'ai fait dans le bon ordre. Voilà, qui évidemment contribue aussi à la beauté de la chanson. Bon, moi, je suis un gros fan de Catonoma, mais bon, c'est pas... ok, et donc, de retour avec Alex, qui a eu le temps de réfléchir à ma question un peu vicieuse, peut-être, je sais pas. Donc, tu as dit « Appétit », publié en 2022, est une version française de « Appetites » de 2018. Donc, est-ce que tu dirais que tu t'auto-traduis ou est-ce que c'est vraiment un terme que tu récuses?
Alors, l'auto-traduction, justement, j'avais eu une conversation récemment avec quelqu'un qui disait non, tu t'auto-traduis pas, tu devrais pas utiliser ce terme, c'est dévalorisant. Alors, je ne sais pas, en fait, j'ai pas de terme qui correspond, qui me paraît correspondre comme il faudrait à ma pratique. Parce que les textes d'Appétit et de Appetites, par exemple, il y en a certains qui ont été écrits d'abord en français et d'autres qui ont été écrits d'abord en anglais. Donc, il y a aussi des textes que je n'arrive pas à traduire. Et Rhapsodie curieuse, je n'ai jamais réussi à faire une traduction acceptable, enfin pour moi, acceptable de ce texte.
Je ne te jette pas la pierre, je ne me risquerai pas à essayer de le traduire, de fait. C'est une petite plaquette qui est publiée, qui est parue chez Louise Bautu. Rhapsodie curieuse, Dios puros keki, si je lis le sous-titre. Ok. Et donc, mais Appétit, tu as tout traduit en revanche. Appétit, les deux recueils présentent les mêmes poèmes, il me semble.
Oui. Mais il y a quand même d'importants décalages entre les versions, si j'ose dire, de chaque texte. Hein. Donc, on peut acheter la version. La version. Je reviens toujours à ces termes.
Non, mais pourquoi pas ? Non, mais c'était pas du tout une question piégée. Moi, je vois pas de dénigrement à dire auto-traduction, mais je peux entendre effectivement ce qu'il y a derrière quand c'est l'auteur qui est l'auteur des deux textes, effectivement.
Oui, mais il y a beaucoup de décalage en fait. Il y a beaucoup de jeux où je fais autre chose finalement dans le texte français que dans le texte anglais. C'est encore plus flagrant dans Carambole. Il y a certains textes qui n'ont même pas le même nombre de vers d'un côté ou l'autre de la page. Le poème, il y a un poème qui a une allusion à Charles d'Orléans à la fin, qui justement, les deux versions sont très différentes. La version française est à mon avis meilleure que la version anglaise, mais a été produit après le texte anglais. Donc y a vraiment tous les cas de figure possibles et j'ai pas de terme qui regroupe toutes ces pratiques différentes, tous ces cas de figure différents de manière satisfaisante.
Alors j'ai lu récemment, mais alors là malheureusement la mémoire me fait défaut, parce qu'en t'écoutant ça m'y fait penser, j'ai lu en anglais, alors c'est vrai que ça se traduirait difficilement, mais quelqu'un qui disait « In the cases of my auto », si c'est Ngogi en fait, je crois que si ça me revient, c'est dans un recueil d'essais, c'est dans le dernier recueil d'essais de Ngogi Wa Thiong'o, « The Language of Languages », Ouf, ça m'est revenu. Il y a des fois, quand on est en cours, ça ne nous revient jamais, c'est agaçant.
Et, je connais.
Là, tu connais, hein, tu vois, c'est, on est un peu connivant là-dessus, on voit très bien de quoi on parle. Big up à tous les profs qui ont connu la même situation, et aux étudiants aussi, ça arrive. Il dit « Out in the cases of my auto-translations or author translations ». Et il met « author trait d'union translations », en fait. Mm-hmm. Et je trouvais ça intéressant, en fait. Et je me dis que c'est... Alors après, c'est pas un terme extrêmement pratique à sortir tous les jours dans la conversation, mais disons qu'en fait, tu te permets des choses, ce que tu viens de dire, de ce que tu fais, c'est-à-dire, il n'y a pas le même nombre de vers, je supprime des mots, c'est en fait ce qui te serait reproché comme une réelle erreur si tu traduisais quelqu'un d'autre que toi-même, en fait.
Exactement.
C'est là où il y a une spécificité, pour le coup, de l'auto-traduction, quel que soit le nom qu'on lui donne, en fait.
Tout à fait. J'ai lu un livre là-dessus qui s'appelle « The Bilingual Muse ». Mmh. Hein, qui est pas mal, c'est Vanner, l'auteur, Adrian Vanner, W-A-N-E-R, qui parle du cas de Nabokov, par exemple, mmh. qui a écrit des poèmes qu'il a ensuite, qu'il a auto-traduit, mmh. je sais plus de quelle langue vers quelle langue, peu importe, russe et anglais sans doute. Mmh.
Et je crois qu'en fait, il s'auto-traduisait que de l'anglais vers le. Je vais peut-être dire des bêtises, je t'interromps, excuse-moi, mais je crois qu'en fait, il avait fait traduire en anglais par son fils ses premiers romans en russe, je crois en tout cas. Donc je pense que c'était plutôt ça, mais bon.
C'était des poèmes beaucoup plus tard dans sa carrière, en fait. Et lui, qui était un littéraliste absolument d'une férocité incroyable sur le plan de la traduction, qui a traduit Eugène Onéguine avec un volume entier de notes de bas de page, était beaucoup plus souple, on va dire, en ce qui concerne ses propres productions. Hein, donc,
Parce que c'est lui qui met son nom dessus de toute façon, on en revient à ça. C'est-à-dire, effectivement, et c'est vrai que, je ne sais pas, il y aurait certainement une histoire à faire, presque une sorte d'archéologie du savoir à faire par rapport à ça, mais à l'époque où Beckett commence à écrire des textes directement en français, puis à les publier en anglais beaucoup plus tard, et inversement, je ne crois pas qu'on parlait réellement d'auto-traduction, qu'on faisait autant. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on publiait beaucoup moins que... en termes d'études ou de commentaires de traduction que ce qu'on fait maintenant, où c'est devenu une vraie discipline. Mais je me demande comment c'était perçu. Je pense que personne, pas grand monde allait regarder vraiment ce qu'il faisait, ni quelle liberté il prenait. Il en prend énormément. Donc, je pense que c'est des textes, c'est deux textes originaux du même auteur, l'un en anglais, l'autre en français. Je crois que ça...
Il y a des études de la pratique de Beckett aussi dans un livre qui s'appelle « Writing It Twice » de Sarah Kipper. C'est pas mal du tout. Et justement, elle évoque par exemple le fait que Beckett détestait le processus de l'auto-traduction. Il s'en plaint tout le temps dans sa correspondance en disant « il faut encore que je traduise ça vers l'anglais, j'en ai marre
». Il jouait ou il surjouait le côté épuisé. Il disait qu'il était fatigué de tout. Hein. On connaît sa réponse à la « Why do you write ?» Non, c'était quoi ?« Pourquoi écrivez-vous » Il avait répondu « Bon qu'à ça, non ?» je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc bon, je pense que c'était... Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais on a tendance à trouver que parfois, il y a un petit peu... Moi, j'adore Beckett, mais il y a un petit côté où il surjouait en permanence le côté « j'ai pas envie », quoi, mais mm-hmm. où ça me fatigue. Bon. Donc, en fait, la conclusion, c'est que en fait, il faut acheter les deux, quoi. Finalement, il faut acheter Appetites et il faut acheter Appétit parce que c'est ces deux versants d'un même texte, mais ça n'est pas le même texte deux fois. On peut pas dire.
Tout à fait. Et en plus, il y a un texte supplémentaire dans Appétit, l'édition française, contient aussi un deuxième recueil qui s'appelle Un grenier et qui n'existe qu'en français.
Tout à fait, j'ai jamais fait
de texte anglais.
J'allais oublier de le dire. D'ailleurs, ça fait une bonne transition parce que je voulais te lire un poème de Un grenier. Alors, Un grenier, ça part. C'est un texte qui est entrecoupé, entrelardé de gravures qui proviennent donc d'un ouvrage trouvé dans un grenier, d'une malle un petit peu au trésor, c'est un peu ça le point de départ du recueil. Dans ce recueil, puisqu'on parlait de la question de la langue, il y a un poème qui commence, alors je vais lire juste le premier paragraphe, la première strophe si j'y arrive, qui commence comme ceci, « Pour de les qui avec, à de ne que lequel. Quel bel alexandrin que ces rebuts beaux, qui sont sans être remarqués en face, car de ne pour je qui beaucoup. Et donc là, tu t'amuses à séparer les morceaux de la langue, les opérateurs linguistiques. Il y a quelque chose comme ça, je crois, dans l'exercice de style de Queneau. Il y a un des exercices de style où il met que les prépositions, je crois, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça.
Oui.
Donc, est-ce que tu vois, je ne sais pas si tu as le poème en tête. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce que tu as voulu faire à ce moment-là ou dans ce recueil aussi
Ben, en fait, c'est un poème sur ce que j'appelle le pain mort de la langue dans ce poème-là.
J'aurais dû continuer à lire, de fait.
Oui, tout à fait. Donc, le pain mort de la langue, entre guillemets, c'est toute cette matière qui permet de mettre les mots ensemble, comme les prépositions, les conjonctions, les petites bribes comme ça, qui n'ont pas beaucoup, qui ne portent pas le poids de la signification dans la phrase. Ce n'est pas les vedettes. Hein, c'est les non-vedettes, les figurants de la langue, en quelque sorte. Et j'ai voulu, en quelque sorte, les mettre en valeur dans ce poème qui fait l'éloge de ce connective tissue, les ligaments et les muscles de la langue qui permettent à la signification de faire son travail, en fait.
D'ailleurs, j'ai choisi de les lire d'une manière un peu oralisée, mais on pourrait les lire d'une manière extrêmement stylisée en respectant la métrique classique, puisque tu as mis il y a deux prépositions de deux syllabes qui sont à chaque fois en fin d'hémistiche, puisque ça donne « pour de l'équi avec ». À deux ne que lequel. On pourrait le lire comme ça aussi. D'ailleurs, tu as fait exprès de faire ça. Alors, est-ce que quand même l'anglophone ne ressurgit pas, parce que le pain mort de la langue, et bien que ce soit un recueil qui n'existe qu'en français, si je ne m'abuse, en tout cas, il n'est publié qu'en français, et tu vas peut-être nous dire, là, il y a tel poème, en fait, je l'avais déjà d'abord écrit en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, tel quel, pour des chercheurs en littérature. Il existe dans un premier état publié en français en 2022. Est-ce que quand même, là, il n'y a pas ce côté sensibilité du poète de langue anglaise, puisque dans la poésie de langue anglaise, c'est une poésie qui est accentuelle, et c'est vrai que les prépositions et les articles encore plus, puisque ensuite tu pars du « là », du « le » et du « là », et le « là », tu fais une relation avec le « là », musical. D'ailleurs, bonne chance le jour où tu t'auto-traduiras si tu auto-traduis ce poème, parce que « the » n'est pas une note de musique, donc good luck. Donc tu parles de ça. Est-ce, pour le coup, en poésie anglaise, « the », sauf cas exceptionnel, « with », « for », etc., sauf cas exceptionnel, ne sont jamais accentués. Donc, pour le coup, sont ce pain mort, c'est-à-dire ce pain qu'on n'entend pas, ce sous-bruit, enfin, cette chose qui n'est pas accentuée. Donc, est-ce que là, tu dirais effectivement que c'est parce que tu es anglophone aussi que tu as pu écrire ce poème-là, ou que tu as peut-être été plus sensible que des francophones monolingues à cette question en français?
C'est possible. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis anglophone que ça s'est fait comme ça, mais je sais que dans le jeu des fautes de langage ou des solécismes et compagnie, les prépositions jouent un grand rôle, vraiment un rôle très très important. J'ai été sensibilisé par le processus de l'écriture, en fait, à ce type de phénomène dans la langue. Est-ce que c'est parce que je suis anglophone? Alors, c'est vrai que je cherche, même en français, des rythmes forts. Donc les rythmiques, soit métriques, soit par l'accentuation du français, parce que le français n'est pas sans accent.
Non, tout à fait.
Hein, c'est des accents de groupe. Hein. Veux-tu et tu veux, il y a l'accent qui est toujours sur la seconde syllabe. Mais je cherche toujours quand même des structures rythmiques quand j'écris de la poésie. C'est pas du tout disposé au hasard comme ça me vient. C'est assez calculé dans les effets rythmiques, et ça y compris dans le français.
Est-ce que t'as pas plus de liberté dans le français, puisque quand tu écris, alors on va en venir à un moment donné à The Distance and You In It, mais tu travailles aussi sur des modèles, parce que tu t'es beaucoup inspiré de Milton, Shakespeare. En fait, tu t'amuses aussi à jouer avec des grandes références, mais tu joues aussi avec notamment le maître iambic, avec des choses qui sont très codifiées en poésie anglaise, qui finalement donnent peut-être moins de liberté au poète. Alors, la liberté est ailleurs, elle est dans le jeu, avec l'intertexte, avec les les grands modèles. J'ai cité Milton Shakespeare, c'est pas tout le monde qui peut se dire tiens, je vais essayer de refaire ou de remixer Shakespeare ou de remixer Milton. Mais est-ce que finalement en français, il n'y a pas un peu plus de liberté, puisque la codification, et je suis entièrement d'accord avec toi, j'arrête pas de le dire, il y a de l'accentuation et il y a de l'accentuation dans la poésie. On ne peut pas expliquer le trimestre hugolien sans ça, parce que effectivement, il décide tout d'un coup qu'il va y avoir trois accents et pas quatre ou pas deux dans le vers. Mais néanmoins, la codification pour les personnes qui veulent écrire en format contrainte, elle est sur les coupes et sur le nombre de syllabes et sur les rimes, évidemment. Donc, est-ce que finalement, tu n'as pas plus de liberté quand tu écris en te disant « Tiens, là, je vais accentuer tel mot à tel endroit et j'ai le droit de le faire parce que finalement, là, il n'y a aucune règle. » C'est le seul endroit où il n'y a pas de règles, presque, j'ai envie de dire, en métrique française, ou peu de règles.
C'est vrai que le français est plus libre en ce qui concerne tout le côté rythmique. Mais du côté syntaxique, le français, il y a quand même plus de contraintes, parce qu'il y a moins de souplesse dans la place des mots, il y a moins de souplesse dans le rôle des articles en particulier. En français, vous laissez tomber beaucoup moins les articles. Donc, il y a des contraintes syntaxiques qui sont quand même très significatives en français. Alors, il vous arrive de faire des inversions à la racine, mais il y avait une époque où on pouvait faire des inversions raciniennes. On les fait plus trop souvent, même en poésie, je pense.
C'est très marqué, en tout cas, parce que quand on le fait, c'est vraiment ludique. Enfin,
c'est ça.
C'est parodique, souvent même, d'ailleurs. Enfin, quand on écrit de cette façon-là, c'est...
Tout à fait,
oui. C'est pour s'inspirer d'un modèle. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui écrivent premier degré comme ça au XXIe siècle, en tout cas. Mais...
Tout à fait. Et donc, il y a des contraintes syntaxiques, mais des libertés rythmiques, effectivement, en français. Et donc, je joue sur différents tableaux en fonction de la langue dans laquelle j'écris.
D'accord. OK. Eh bien, on va en venir à The Distance Inuit, puis j'aurais voulu aussi qu'on dise deux, trois mots de tes traductions. On va d'abord faire une deuxième pause musicale en écoutant Royal Peppermint Forest du groupe Kiln. Alors ça, je ne connais pas du tout. C'est ton choix à toi. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ou pas, ou tu nous laisses découvrir ou...
Alors, Kiln est un groupe électroacoustique avec que des choses... Enfin, il n'y a pas de paroles dans cette musique-là, que j'ai découvert il y a 25 ans, quelque chose comme ça, quand je faisais mon DJ à la radio.
Ah oui, parce que tu as une expérience de radio, c'est vrai qu'on en a parlé hors micro, c'est vrai.
Tout à fait. Donc, je l'ai découvert il y a des années à la radio et j'ai continué de l'écouter. C'est un groupe assez extraordinaire et avec vraiment une approche, j'ai envie de dire, texturale de la musique, où il faut vraiment écouter de près. Si vous avez un casque, c'est la manière parfaite d'écouter ce groupe.
D'accord. Ben nous, on ne va pas enlever les nôtres, alors, puisque c'est ta recommandation. Royal Peppermint Forest, The Kiln. Et donc, vous n'avez pas besoin de régler le son de votre radio. C'était le son Royal Peppermint Forest de Kiln qui termine avec effectivement des textures un peu étranges, un peu déroutantes et qui pourraient donner l'impression peut-être « Ah, c'est bizarre, il se passe un truc bizarre avec mon casque ou avec mon poste ». Mais c'était très, très, très chouette. Merci pour la découverte. Et donc, on va parler encore avec notre invité Alexandra Dico. On est sur... Radio Campus Tour 99.5, l'émission I Love Mes Cheveux, de sa plus récente publication, The Distance and You in It, un livre d'une centaine de pages paru tout récemment, en 2025, chez un éditeur dont je ne retrouve pas, c'est les Blaze Vox, c'est ça, Blaze Vox Books. Mm-hmm. Et donc c'est un, alors je vais dire comment moi je le présenterai, et puis après tu auras l'occasion de dire tout ce qui ne va pas dans ma présentation. ou de compléter. Donc c'est un poème en deux parties. La première, c'est une cosmogonie qui s'appelle Hobbes Labor, et dans laquelle un personnage qui est un peu une sorte de qui va être une sorte de démiurge, d'être apparemment tout puissant, mais à qui il manque quand même un certain nombre de compétences malgré tout, se met au monde et est à la recherche notamment de chaussures. Hein. C'est vraiment un motif beckettien peut-être encore, je ne sais pas. c'est pas du tout beckettien en revanche dans le ton et dans l'écriture. Et une deuxième partie, donc c'est vraiment un poème. Hein. Ça alterne différentes formes d'expression poétique avec avec du vers libre, du vers rimé, un certain nombre de genres aussi ou de formes fixes. Et puis il y a une deuxième partie qui s'appelle Duet with Commentary, littéralement duo avec commentaire. C'est un masque, hein, ou une mascarade, masquerade. Je ne sais jamais comment on dit en français. Je crois qu'on dit un masque, il me semble. Je ne sais jamais trop.
Je crois.
Et donc, dans lequel ce même personnage de Hob va être l'antagoniste absolu d'un couple, Aviv et Anna, qu'il va essayer de capturer, de transformer, d'empêcher de s'aimer. En fait, on peut le dire. Hein, voilà. Donc, est-ce que tu veux parler un petit peu de ce texte, de comment tu l'as écrit, ce qu'il signifie à ce moment dans ton œuvre. Alors c'est un texte qui a beaucoup d'éléments de réécriture aussi, ou de jeu intertextuel, on l'a dit tout à l'heure aussi.
C'est assez bien présenté déjà, enfin, chapeau, hein, parce que j'aurais du mal à présenter aussi finement ce livre. Alors c'était un défi pour moi parce que j'ai l'habitude des formes courtes. Donc c'est plus difficile pour moi de faire un roman que de faire des haïkus, des petites formes très courtes. Et donc c'était une sorte de défi pour moi de faire un long poème. Mmh. Un poème qui se tient vraiment sur la longueur. Et j'ai toujours aimé la poésie narrative. Donc, Carambole, il y a une bonne partie qui est une sorte de poème narratif. Donc, ça, c'était pas compliqué. Mais je voulais arriver à tenir sur la longueur en écrivant ça. Et les formes épiques, enfin, la forme de la cosmogonie en particulier, m'est venu après. En fait, le premier texte à être écrit était au début de Duet with Commentary, où il y a justement une espèce de jeu de... comment on dit en français, I chase you and you run away.
Oui, c'est trap-trap. Il doit y avoir un autre jeu, mais... Ça fait longtemps que j'ai pas joué.
Je ne sais plus si en français qu'on dit ça. Je te poursuis, tu me fuis, ou quelque chose comme ça. Et inversement.
Une sorte de course-poursuite. Enfin, voilà,
oui, c'est ça. Donc un va-et-vient où il y a justement un personnage qui veut se retirer, qui est timide dans l'amour, et l'autre qui est très... Il y a une certaine urgence à l'amour. Et donc, ça, c'était le premier morceau que j'avais écrit. Et puis, ça a commencé à proliférer et jusqu'à devenir toute la deuxième partie du texte. Et puis, j'ai commencé la première partie du texte après. Donc, la cosmogonie est venue, en fait, après. Donc, il y a une partie un peu dramatique et une partie un peu plus narrative, un peu plus épique.
Il me semble d'ailleurs que tu m'avais fait lire une partie qui était une partie de la deuxième partie il y a déjà quelques années, 2020 je dirais, ou quelque chose comme ça.
Tout à fait.
Et j'ai eu le privilège de lire, moi et quelques autres, il y a quelques grands noms d'ailleurs qui t'ont écrit des blobs et des je peux même pas comment dire en français, des citations d'introduction, des prières d'insérer, je sais pas, sur la quatrième de couverture. Donc c'était il y a un an, je crois, que j'ai... Voilà, donc le texte, il est finalisé depuis un an et quelques, quoi, voilà.
Tout à fait.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est très difficile de résumer ce livre. Il faut vraiment le lire. Je pense qu'en fait, je pense que si on entre dedans et qu'on a... qu'on s'amuse, parce qu'il y a un vrai plaisir, il y a un vrai jeu. Je pense qu'en fait, tu disais, le texte s'est mis à proliférer parce que tu t'es amusé, en fait. C'est-à-dire, tu as écrit une ou deux ou trois scènes, et puis c'était vraiment... Enfin, on sent... Enfin, moi, je trouve que c'est un plaisir partagé. C'est-à-dire qu'on sent l'amusement que tu as eu à écrire ces situations, à les écrire en ayant des échos qui sont des échos du songe d'une nuit d'été de Shakespeare, bon, qui est une référence que d'ailleurs, qui est d'ailleurs mentionnée sur la quatrième de couverture, bon, voilà, qui est assez évidente. Il y en a d'autres qui sont moins choses évidentes, mais on sent que tu t'es beaucoup amusé à retravailler tout ce matériau-là avec quelque chose de nouveau quand même. C'est-à-dire que c'est pas un pur exercice de style. Donc on sent que voilà, ça a proliféré parce que you wanted more, quoi. T'avais envie de continuer à explorer cet univers-là et cette forme-là. Alors on peut pas parler de tout, mais je veux juste faire. C'est un choix, mais il y a une des scènes de la deuxième partie. Alors les scènes ont des titres, elles n'ont pas des numéros, parce que c'est une forme qui est dramaturgique et qui pourrait tout à fait être mise en scène. Ça serait peut-être un petit peu long, parce que ça ferait peut-être plutôt 3-4 heures qu'une ou deux. Mais il y en a une qui s'appelle « Here we go round the Mulberry Bush », qui est déjà tout un programme, j'ai envie de dire, comme titre, et qui est composée d'échanges assez longs, de tirades entre Hob et Anna. Et en fait, Hob, puis Anna, puis Hob, puis Anna, chacun prononce un sonnet, en fait. Donc, on pourrait très bien ne pas s'en rendre compte. Alors, ce sont des sonnets qui mélangent, en fait, la forme traditionnelle, on va dire italienne, pétrarchiste, et une forme plus anglaise, puisque les rimes ne se répètent pas du premier au deuxième quatrain. On ne va pas commencer à faire un cours sur le sonnet, je rassure les auditeurs. Mais c'est pour dire voilà, que quand même, il y a une vraie... science de la forme, c'est-à-dire on voit qu'il y a un grand savoir de la forme derrière dans ta pratique poétique, et donc ces personnages lancent des tirades qui sont des sonnets, et d'ailleurs la quatrième tirade qui correspond à une évolution de la dramaturgie et de l'action, la forme est modifiée d'ailleurs, elle se rapproche d'ailleurs plus de la forme shakespearienne à ce moment-là. Donc c'était pour donner un exemple. En plus, aujourd'hui, on enregistre la 14e émission de I Love Mes Cheveux, donc 14, c'est quand même le chiffre magique du sonnet. Donc là, je trouve que ça collait bien. Donc, c'est des sonnets, je m'en suis rendu compte, mais je crois qu'il y a d'autres formes aussi avec lesquelles tu t'es amusé à émailler. Moi, j'y arrive pas non plus, tu vois, avec les prépositions. Donc, tu t'es amusé à émailler le texte.
Oui, il y a une tonne de formes différentes dedans. Il y a donc la cestine, il y a le Gazo, je ne sais pas comment prononcer ça en français.
Gazal, c'est ça. Je crois qu'on prononce à la française. Mais...
Alors, il y a le Terza Rima du Dante. Il y a... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a des rondeaux, des villanelles, des vers plus ou moins allitératifs. Il y a quoi d'autre? Bon, il y a des formes que j'invente un peu comme ça. Voilà, qui
me rassure parce qu'il y a des fois où j'ai remarqué les formes et je me suis dit, je sais pas ce que c'est ça. Mais il y en a que j'ai pas. Le gazelle, par exemple, c'est vrai que je connais très mal et j'ai pas dû le voir, lui. Hein, mais...
Bah d'ailleurs, je pense que mon usage de cette forme-là est peut-être un peu approximative, hein, c'est possible.
Bon, on ne le dira pas trop, alors pas te faire accuser d'appropriation quand même approximative en plus. Ok, mais en tout cas, voilà, c'est un texte qui demande un certain investissement du lecteur, pour le dire comme ça, mais qui est vraiment très agréable et très jouissif. Enfin, il y a un vrai plaisir du texte pour le coup. Et donc, tu disais que tu avais voulu travailler avec la forme de l'épopée, avec les formes des poèmes narratifs. Et il se trouve que dans ta pratique de traducteur, tu as notamment traduit un livre que moi j'aime beaucoup, qui est d'une poète pas assez connue, je crois, une poète de langue française, qui est Sylvie Candé, et dont tu as traduit La quête infinie de l'autre rive. Alors, je ne sais jamais de quand date la... Enfin, il y a un certain décalage, je crois, entre l'édition française et l'édition donc américaine. Donc, ta traduction, The Neverending Quest for the Other Shore. Tu vas peut-être me redire les dates, parce que là, je suis en train de m'embrouiller avec le livre.
Il me semble que la quête infinie est parue en 2011. D'accord. Et l'édition américaine est parue en 2022, me semble-t-il.
D'accord, c'est ce que je suis en train de vérifier. 2011 et 2022, bravo, English Translation. Oui. Et donc, c'est paru à Wesleyan University Press. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le français. Hein, donc, on est sur une traduction d'un texte épique, donc qui quand même parle de toute l'histoire de l'esclavage. Donc, on est sur un texte lourd quand même, hein, de par ses références historiques. Et donc, ça, c'est un texte que tu as traduit avant de faire la partie cosmogonique de Hobbes Labour. Ça fait partie des passerelles aussi vers le fait d'assumer soi-même cette forme ou...
Oui, dans une certaine mesure. Alors, c'est bon, The Distance and You in It est quand même un livre très très différent dans la démarche. Bon, c'est beaucoup plus humoristique. Voilà. Mais je crois qu'effectivement, ça a contribué à me donner envie de faire un poème long. hein, de faire un poème qui se tient sur des pages et des pages comme ça. Et puis, la forme du poème narratif, comme je l'ai dit avant, était déjà en moi, était déjà quelque chose auquel je m'intéressais. Et donc, l'idée de faire sur une centaine de pages, ça me plaisait bien. Et puis, il y a aussi les deux parties, enfin, les deux livres ont deux parties. En fait, c'est trois parties chez Sylvie, mais il y a deux récits. Il y a le récit qui est repris et modifié dans la deuxième partie, donc la première et deuxième, le premier et deuxième chant, qui concerne un roi du Mali, quasi mythologique, parce qu'on n'a qu'une mention de ce personnage, qui aurait pris un tas de bateaux pour essayer de trouver la fin du monde, en quelque sorte, le bout du monde. Abou Bakar le second, hein, qui donc, on a imaginé qu'il aurait pu arriver à la rive de...
Sur les rives américaines. Oui,
oui, tout à fait, exactement, sur le Nouveau Monde, dans le Nouveau Monde. Et le deuxième récit, donc le chant 3, concerne les migrants, en fait, les personnes qui se mettent dans des mauvais bateaux pour essayer de venir en Europe depuis l'Afrique. Cette mise en regard me paraissait très, très intéressante. Et puis, elle a une vraie langue. Il y a vraiment une espèce de sens du rythme et de la densité des images qui me plaisait chez Sylvie. Et je ne sais pas si ça... C'était pas un modèle exactement. Mais ça... Ah, je ne sais pas comment dire. J'admire beaucoup le livre de Sylvie. Évidemment, je l'ai traduit en entier. Et c'est vrai que j'ai aussi fait un long poème narratif. Voilà, donc il y a peut-être une passerelle là, quelque part. Quoi.
Alors peut-être qu'on peut d'ailleurs lire le début de la troisième partie qui justement décrit ces embarcations de fortune et ces migrants. Je vais lire le français, tu vas lire l'anglais.
Sans problème, ouais.
Donc ça se trouve au début de la troisième partie. Il préférerait ramer à présent 70 passagers, ses 70 cœurs au ventre et 70 fois deux bras, enfin pas complètement. Si on soustrait le tas d'enfants sous la bâche huileuse au milieu, là, ballant des os, grelot des corps. Comme il préférerait ramer, donnant à chaque impulsion le faste d'un baroud et l'audace d'un regain. Mais ils sont là au coude à coude, debout le plus souvent, assis quand faire se peut, à jeter au ciel tordu de pâles contractions un coup d'œil blasé et chassieux, car voilà la nuit en train d'accoucher à la va comme je te pousse, à la 6-4-2, d'un jour plus moche encore que le précédent. Ça, c'est le début du chant 3 de La quête infinie de l'autre rive de Sylvie Candé. Et donc, Alex va nous lire sa traduction.
At present, they would rather be rowing. 70 passengers, that's 70 stout-hearted souls, and 70 times two arms. Well, not entirely, if you subtract the group of children under the greasy tarp there in the middle. Heaving waters, shivering bells of bodies. How they would rather be rowing, adding to each impulse the splendor of the fray and the audacity of renewal. But they are here elbow to elbow, standing most often, sitting when possible, while casting at the sky twisted with pale contractions, a jaded and rheumy glance. For here is the night giving birth, any which way, wasting no time, to an even uglier day than the last.
Merci beaucoup, parce que c'était quand même important d'entendre, et très sincèrement, voilà, quand on entend ta traduction, on entend ta langue à toi aussi, et donc c'est une... Enfin voilà, moi je considère que j'ai du mal à faire on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de compartimentation possible entre tes textes originaux en anglais et la version française ou dans le sens inverse. Et moi, j'ai envie de... Enfin, tes traductions, elles font partie aussi de ton œuvre. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu en es d'accord ou pas. Et donc, très rapidement, parce que tu as traduit d'autres auteurs, quels auteurs tu as envie de... Voilà, pourquoi tu as traduit certains auteurs Est-ce que c'était voilà, par volonté de les faire connaître, pour toi-même travailler ta propre langue, tout ça un peu à la fois? C'est une question un peu mal foutue, mais enfin voilà.
La réponse est oui. C'est-à-dire oui pour travailler ma langue, pour essayer de faire connaître des auteurs que j'apprécie, donc Henri Droguet, Sylvie Condé, pour aussi parce que j'avais un rapport particulier à telle ou telle œuvre, donc l'œuvre de Max Jacob par exemple, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est un peu en fonction de la traduction, mais toutes ces raisons jouent. Mm-hmm. Donc, avec Sylvie, je pense que c'était un beau défi, déjà, de travailler une langue aussi dense, aussi riche, d'essayer de rendre en anglais la richesse lexicale, déjà, de ce texte, est déjà assez difficile.
Très chargé aussi en émotion, aussi. C'est quand même un texte qui est à la fois très beau, dans une langue très voilà qui c'est pas une langue impulsive, enfin, si tant est que ça veut dire quelque chose, c'est une langue qui est très travaillée, qui est très belle et qui réussit en même temps, parce que parfois on oppose ça, on dit si c'est trop travaillé, si c'est trop élaboré, ça tue l'émotion, etc. Pas du tout. Enfin, je crois que ce texte là notamment est un merveilleux contre-exemple de ça. Ça peut être extraordinairement beau et travaillé, avec un artistry, j'arrive pas à le dire en français, enfin avec des qualités voilà de créatives, et être extrêmement poignant et extrêmement prenant. Voilà, donc oui, tout je peux fait, me douter oui. que c'était, oui. C'était quelque chose à la fois de très tentant de traduire ça et très difficile aussi, ça je peux imaginer. Et est-ce qu'il y a des auteurs que tu as traduits? Alors, l'émission n'est pas confidentielle, mais bon, je pense que les gens n'entendront pas ça, si tu critiques, mais est-ce qu'il y a des auteurs que tu as traduits ou des poètes que tu as traduits parce qu'ils n'étaient pas bien traduits ou pas assez bien traduits en anglais, ou c'était vraiment parce qu'il y avait des recueils qui n'étaient pas traduits? Parce que Max Jacob, je suppose que tu n'as pas été le premier à traduire Max Jacob en anglais ou...
Non, je n'ai pas été le premier à traduire Max Jacob. C'est surtout le Cornet AD qui a été traduit. D'accord. Moi, je me suis attaqué au Laboratoire Central de 1921.
Qui n'avait pas été traduit, du coup.
Qui n'avait pas été traduit.
Ah, d'accord.
Il y a quelques textes qui ont été traduits, mais par d'autres poètes, mais jamais ce recueil en entier. Donc, d'accord. C'était... Alors là, c'était le jeu d'essayer de faire une traduction en gardant les formes rimées, les formes métriques, etc., qu'utilise Jacob, alors de manière très libre. Hein, parfois, c'est des vers libres, parfois, c'est des vers rimés. Enfin, il y a tous les cas de figure. Et là, je voulais faire une traduction qui respecte la forme de l'original. Donc, c'était ça, la démarche. J'ai moins fait ça avec Condé. Avec Condé, ce qui m'intéressait était ailleurs. Hein, c'était la richesse lexicale, l'émotion, des choses comme ça qui m'intéressaient plus que...
Tu rends quand même très bien le rythme quand même. Tu t'es resté quand même très, très fidèle au rythme. On parlait de ça tout à l'heure. C'est un très bon exemple du fait que le texte français est accentué aussi. Et tu as prêté une vraie attention à cette accentuation aussi. Donc,
c'est vrai, mais par contre, il y a des rimes que je n'ai pas reprises, par exemple, à l'occasion. Et il y a parfois aussi des alexandrins dans l'original où j'ai pas repris forcément un décasyllabe ou un.
De toute façon, on ne sera jamais d'accord pour savoir quel est l'équivalent en poésie anglaise de l'alexandrin, de toute façon.
C'est clair, ouais.
De même qu'en poésie française, enfin, les pentamètres iambiques qui sont le vers élisabétain, shakespearien, miltonien, etc., enfin, le grand vers, etc., il y a des poètes qui les traduisent par des alexandrins, d'autres par des décasyllabes, d'autres par des endécasyllabes. Je crois que Markovitch, il lui est arrivé de traduire par des endécasyllabes en disant que c'était le vers le plus proche. Ce qui est très voilà, ce qui est une vraie démarche pour le coup très courageuse aussi. De toute façon, il n'y a pas d'équivalent. Ton objectif était voilà, c'était pas ta priorité en tout cas d'être aussi proche de la forme qu'avec Max Jacob.
Tout à fait, oui. Alors le rythme, oui, le rythme, ça m'importait chez Sylvie, parce que le rythme fait partie de la démarche affective en fait du texte, enfin de la. De l'émotion qui le sous-tend, et donc j'avais besoin de rester auprès du rythme.
Et de la question de la traversée aussi, parce que ce motif de la traversée, il y a tous les côtés...
ramés.
Voilà, toute la rame, voilà, il y a tout ce rythme-là aussi qui correspond à des rythmes quand même très spécifiques, liés à des expériences aussi. Hein. Mais c'est très bien. Donc on n'a pas parlé de tout ce dont on aurait voulu parler, mais c'est comme ça. Je pense que c'est un peu difficile, mais on espère que tu auras l'occasion de faire d'autres résidences ou d'autres voyages en France et qu'on puisse te détourner momentanément pour une seconde émission. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu.
Merci, Guillaume.
Donc déjà, on se quitte. Oui, tu peux y aller, oui, vas-y. Si tu as quelque chose à dire, vas-y.
Ah bah, j'allais dire merci encore de m'accueillir.
Et merci à tous les auditeurs, auditrices d'avoir écouté cette 14e émission, comme le nombre de verres dans un sonnet, vous l'aurez compris, de I Love Mes Cheveux. Donc Alex, merci, et on rappelle ton actualité littéraire, le poème épique, dramatique, The Distance and You In It. J'ai réussi à ne pas te poser la question embarrassante, mais il se trouve qu'on en a parlé en off sur la dramaturgie. Est-ce que c'est montable à la scène? Oui, c'est montable à la scène, mais il va falloir un metteur en scène courageux. Et également une traduction à venir de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, traduction que tu as terminée, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais... Voilà, je mettrai en lien un certain nombre de choses que tu m'enverras aussi, ainsi que le lien vers une très belle rencontre à la Maison de la Poésie avec Alain Damasio et Christelle Coulot, dans laquelle aussi tu as eu l'occasion de lire une partie de cette traduction encore inédite, avec Alain Damasio lisant lui-même le français. Et puis toujours dans ton actualité, le 11 juin 2025, donc dans deux jours, à 18h30, rencontre à la bibliothèque anglophone d'Angers. Le 12 juin à 19h, à la bibliothèque de la maison Julien Gracq. Pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission, le compte Insta ILMC 2025. Et on se retrouve la semaine prochaine, le 16 juin... avec Claire Tasté et Émilien Cousin-Amelal de l'association Educpop Animaliste pour parler du Prix Maya et de la Vegan Place. Bonne semaine à l'écoute du 99.5.